Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués, qui sont arrivés ensuite. Nous sommes enfants de Dieu. Le message que je veux vous apporter va nous parler des perspectives d'avenir. Perspectives d'avenir. Prions d'abord. Oui, Seigneur, je te demande, par ta grâce, de pouvoir apporter ta parole avec force, avec humilité, avec sagesse, pour que chacun soit édifié, encouragé, fortifié. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour qui a fait de nous tes enfants, car nous le sommes vraiment, nous sommes tes enfants. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Amen. Alors, pour démarrer ce message, nous allons lire dans Luc, chapitre 12, versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Comment vivons-nous ? Comment voyons-nous notre avenir ? Comment prévoyons-nous l'avenir ? Ce qui est en cause ici, ce n'est pas d'être riche. Abraham l'était. Ce n'est pas de construire des greniers. Joseph en a fait bâtir en Égypte en prévision de la famine qui allait venir. Ce qui est en cause, c'est d'amasser pour soi-même. C'est d'associer le bonheur de son âme au bien matériel. C'est de ne pas se préoccuper de la volonté de Dieu et de sa souveraineté. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 20, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Il ne s'agit pas non plus de ne pas avoir de projet. Il faut simplement les confier au Seigneur. Jacques dit à ceux qui font des projets, vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Qui peut prévoir l'avenir, prédire l'avenir ? Seul celui qui tient les temps entre ses mains peut le faire, c'est-à-dire Dieu. Nous devons nous redire régulièrement que ceux qui vivent sans Dieu et qui font le mal n'ont pas d'avenir. Dans les Proverbes au chapitre 24, 19 à 20, « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteint. » Comme nous l'avons lu au début, l'avenir peut être anéanti en un instant. Cela peut être une catastrophe naturelle, un accident, et la mort survient. Nous en avons sans cesse des exemples, tous les jours. Cela doit être pour nous à la fois un avertissement et un encouragement à ne pas voir seulement le présent, mais aussi la finalité des choses. Dans le psaume 73, le psalmiste dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Si une personne qui se déclare croyante a comme but de s'enrichir, elle tombe alors dans un piège. C'est ce que dit l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est pour cela que ce que l'on appelle l'évangile de la prospérité est une déviation et une erreur complète. À l'inverse de l'incroyant, le croyant a un avenir. Celui qui se confie en Dieu a une espérance. Toujours dans les Proverbes au chapitre 23, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Il y a un avenir pour le croyant. C'est l'Éternel qui est notre avenir et qui nous assure un avenir à cause justement de ce qu'il est. Éternel. Il est éternel. Donc lui seul peut nous assurer un avenir. Toujours Proverbe 24, 13, 14. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Il y a le corps et l'âme. Il y a ce qui est bon pour le corps, le miel. Il y a aussi ce qui est bon pour l'âme, la sagesse. Le Seigneur nous invite à ne pas nous contenter de ce qui nourrit le corps, mais de rechercher aussi ce qui nourrit notre âme. L'erreur du riche de la parabole, c'est d'avoir cru que les biens matériels, la nourriture du corps, pouvaient faire du bien à son âme. Dieu est maître de notre avenir. Vous connaissez tous ce passage que l'on chante dans Jérémie 29, versets 11 à 14. On chante le premier verset. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. » Vous partirez, c'est-à-dire que cette parole concerne le retour à Jérusalem de ceux qui étaient alors captifs à Babylone. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, etc. Dieu promettait à son peuple le retour dans son pays, à l'époque, puisqu'ils étaient exilés à Babylone. Donc c'était une promesse terrestre, le retour dans leur pays. Mais Jésus nous fait une promesse encore plus belle. En Jean 14, Jésus nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Les Juifs attendaient le retour à Jérusalem. Nous attendons la Jérusalem céleste. N'est-ce pas un avenir encourageant? Nous avons un grand Dieu qui domine et qui dirige et conduit. C'est ce qu'on fait, c'est ce que confesse le prophète Daniel lorsque Dieu lui a révélé ce qui devait arriver. Le roi demandait aux sages de Babylone de lui dire quel était le rêve qu'il avait fait et de donner l'explication. Personne, bien sûr, ne pouvait donner l'explication puisqu'il ne connaissait pas le rêve. Le roi se méfiait des sages. Il avait peur qu'il lui donne une explication. Il fallait donner d'abord le rêve Seul Dieu peut révéler ça, c'est ce que les sages lui disent. Mais Daniel s'est réuni avec ses compagnons et il a prié pour que Dieu leur donne la révélation de ce rêve et l'explication. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a révélé à Daniel le songe et son explication. Et Daniel rend grâce à Dieu et il bénit Dieu. En Daniel 2, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » En connaissant un tel Dieu qui domine sur toute chose, qui change les temps, qui change les circonstances, et qui s'est manifesté en Jésus-Christ comme un Père qui nous aime, notre attitude devant l'avenir doit donc être une attente confiante. L'assurance que Dieu connaît et dirige toutes choses. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et Jésus dit encore dans Luc 12, 29, 31, « Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » L'Esprit de Jésus est là pour calmer nos inquiétudes, nos alarmes, nos craintes. Dieu s'intéresse à nous. Il connaît nos besoins. Pour beaucoup de personnes, s'il y a un Dieu, il est très lointain. Mais nous savons qu'il est proche de nous et qu'il nous connaît entièrement. Cette confiance en Dieu, dont parle Jésus, n'a rien à voir avec l'expression « carpe diem » qui s'interprète à notre époque comme « profite bien de la vie maintenant ». Il y a la vie humaine, nous l'avons vu, terrestre, et la vie spirituelle éternelle. Si Jésus dit de ne pas s'inquiéter de la vie présente, il dit aussi qu'il faut penser à notre avenir éternel. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle qu'il n'a pas combattu dans des vues humaines. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 32, 33. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le monde dans lequel nous vivons nous dit sans cesse « consommer, profiter de la vie ». Il tente de corrompre notre vision de la vie. Jésus ne prône pas l'insouciance, mais la confiance en Dieu et la marche dans l'obéissance. Les hommes avant le déluge étaient insouciants. Ils n'écoutaient pas les avertissements de Noé. Luc 17, 26-27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ne pas s'inquiéter, ce n'est pas être insouciant ou inconscient. Nous voyons l'état du monde. Nous connaissons les difficultés. Mais nous plaçons notre confiance en Dieu. Jésus n'avait rien contre les riches, mais il disait que la difficulté pour eux, c'était qu'ils s'attachaient aux richesses. Par rapport à la misère qu'il y a dans le monde, nous vivons dans un pays riche. Nous faisons partie des 20% de ceux qui sont dans les pays riches par rapport à 80% qui sont dans la pauvreté sur la terre. Alors bien sûr, il y a toujours plus riches que nous. Mais par rapport aux 80%, nous faisons partie de ceux qui sont riches. Et Paul dit à Timothée d'enseigner les riches et de leur dire en 1 Timothée 6, 17 à 19, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui vous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions, qui nous donne. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Nous ne vivons pas dans le but de mériter notre salut, car nous savons qu'il nous est offert gratuitement. Nous vivons chaque jour dans la reconnaissance et nous tournons nos regards vers le ciel, vers notre Dieu, pour ne pas nous confier dans ce qui peut disparaître. Est-ce que nous recherchons tous cette vie véritable que l'on ne trouve qu'en Dieu, par Jésus-Christ ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pour beaucoup, et les jeunes en particulier, l'avenir est sombre. Ils ont du mal à se projeter, justement, à faire des projets. Pourront-ils avoir un travail, fonder un foyer, avoir des enfants, connaître le bonheur? Ce sont des envies légitimes. Mais les craintes ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a 50 ans, dans les années 1970, il y avait un mouvement dans la jeunesse qu'on appelait les punks. Leur slogan, « No future », « Pas de futur », « Pas d'avenir ». Nous avons vu tout à l'heure que, effectivement, pour le méchant, il n'y a pas d'avenir. Sans Dieu, il n'y a pas d'avenir. Mais pour le croyant, pour le chrétien qui connaît la grâce de Dieu, il y a un avenir. Chaque génération est placée devant les mêmes questionnements. Nous l'avons été quand nous avons été jeunes, nos parents avant, et ainsi de suite. Chaque génération est placée devant les mêmes questionnements. Chaque génération doit faire confiance à Dieu. Et c'est particulièrement le cas dans les familles chrétiennes. Il ne suffit pas que les parents aient vécu dans la confiance, dans l'amour de Dieu. Il faut aussi qu'à leur tour, chaque enfant décide pour sa vie de s'en remettre entièrement à la grâce de Dieu pour tous les événements qu'il aura à vivre durant la durée de sa vie. Car Dieu veut aussi que nous soyons heureux et paisibles sur la terre. C'est ce que nous lisons dans Michée, au chapitre 6. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Un bonheur simple, dans la paix, dans la confiance en Dieu. Voilà ce qu'il désire déjà pour nous sur la terre. Et si nous vivons cette vie dans l'humilité, dans l'amour du prochain, dans l'amour de Dieu, comme l'enseigne Jésus, alors la gloire dans le ciel nous sera aussi accordée en son temps. En son temps. Car il y a un ordre des choses. La vie terrestre, puis la vie céleste. L'humilité, et puis la gloire. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. C'est ce que le Seigneur a vécu lui-même. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la tristesse, l'inquiétude et le désespoir, mais à marcher dans la grâce de Dieu jusqu'au retour glorieux de notre Sauveur. Et je vous laisserai avec ce dernier passage dans Tite au chapitre 2. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Qu'il en soit ainsi.